Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Retour 11h05, notre segment Habs Radio avec Denis Gauthier d'RDS. Salut Denis!
Bonjour Tony, bonjour Alex, comment allez-vous messieurs?
Oui, ça va très bien. Denis, donc, après la défaite de 6-2, hier on a su que Kirby Dach et Juraj Slafkovský vont être sur le quatrième trio ce soir pour le Canadien avec Joel Armia. Donc, Martin Saint-Louis, on a parlé du hard coaching, là. Il était patient aussi avec beaucoup de patience avec Kirby Dach. Puis là, hier, on a appris qu'il va être sur le quatrième trio. Les trios viennent de sortir encore un matin, là, pour le morning skate qu'on appelle. Puis, boum, quatrième trio. T'en penses quoi?
Ben, moi, j'en pense que pour l'instant, ce n'est qu'une formation sur papier. On va savoir réellement lorsque le match va commencer ce soir avec le temps d'utilisation qu'on va accorder à ce trio-là. C'est sûr que tu regardes sur papier, ce trio-là est bien meilleur que deuxième trio, mais ça te met toujours où tu le places sur ta feuille. Fait que regarde, j'espère que le message est bien compris dans le cas de Dach et Slafkovský. Il y a eu beaucoup de patience à leur endroit au niveau de l'effort, au niveau de l'engagement, au niveau de leur façon de jouer. Au niveau du manque de production, du manque d'efficacité. Maintenant, regarde, on a eu deux jours à mijoter ça avec des alignements de pratique qui font miroiter qu'ils sont sur un quatrième trio puis leur temps d'utilisation va baisser. Mais maintenant, si on regarde ce trio-là puis se retrouve après le match, qu'on regarde la feuille de pointage, qu'ils ont joué 18 minutes, ça sera pas le cas. Ça ne sera juste qu'un feu de paille puis que ça va être des conséquences sans fondement. Donc, ou des menaces sans fondement. Donc, je vais attendre de voir, mais si c'est l'intention qu'on a, au moins de passer un message, c'est le temps de le faire. Fait que donc, moi, je suis bien d'accord avec ce que je vois là présentement jusqu'à présent.
Le rappel de Joshua Roy, c'est le timing, il faut, tu sais, après une autre défaite comme ça, qui ont donné 5 buts en deuxième période, ils voulaient envoyer un message, évidemment. Tu sais, je suis pas convaincu que que le Canadien se sentait vraiment, OK, on n'a pas beaucoup d'attaques, mais il voulait brasser des... Il voulait faire quelque chose. Hein, il voulait capter l'attention des gars. Hein.
Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est dans le club de Slafkovský et Dach, c'est des joueurs offensifs, on le sait. C'est des joueurs qui devraient jouer notre top 6 puis d'être productifs là-dedans. Si le message est donc en bas sur le quatrième, on va te remplacer par un gars offensif qui a un flair, qui a du talent, qui a un flair pour le filet adverse, ben la menace est un peu plus vraie que si tu le remplaces par un gars comme, tu sais, je vais dire comme Dota, par exemple. C'est un gars qui est pas nécessairement dans sa palette de marquer plusieurs points au niveau de la Ligue nationale. Donc, tu sais, la menace est un peu plus réelle. Ça donne une belle option un peu plus offensive, pour Martin Saint-Louis quand il joue, son jeu de placer ses pions pour essayer d'avoir une attaque un peu plus diversifiée, un peu plus menaçante. C'est un gars sur l'avantage numérique que j'ai hâte de voir. Est-ce que un de ces deux-là, Slaf ou Dach, vont payer le prix en avantage numérique avec un gars comme Roy qui rentre, qui est capable de prendre leur place et est apte et outillé à prendre leur place sur l'avantage numérique. Donc, pour moi, je trouve que ça donne une belle option. C'est un rappel qui est probablement mérité. J'ai pas vu les matchs de Roy. Ce que j'entends, c'est que généralement, ça va bien. Il produit. Il a pris sa démotion avec maturité. Il y a encore du chemin à parcourir, je te dirais, avant d'être un vrai bon régulier au niveau de la Ligue nationale, mais il cogne à la porte, puis son opportunité, il l'a probablement mérité. Puis ça donne, comme j'ai dit, ça donne une menace dans un rôle offensif qui n'était pas disponible pour le Canadien juste depuis le début de la saison. Pour les gars qui sont un peu plus, peut-être, confortables, je vais le dire, offensivement dans le top 6.
Mais sans mal que Condotta a dû payer le prix. Me semble que c'est pas lui qui méritait.
C'est injuste. La game est pas toujours fair, Tony. C'est comme un... C'est un dicton des fois que les coachs disent « The game is fair ». La game est juste pour, tu sais, quand tu travailles, tu as des résultats, mais individuellement, la vérité, c'est que des gars comme Condotta, il y en a plusieurs des gars comme lui dans la Ligue américaine, puis au niveau de la Ligue nationale, c'est des gars qui sont pas indispensables. Ils sont très utiles, mais ils sont pas indispensables. Fait que, tu sais, des joueurs comme lui, puis a mérité son rappel, a bien fait ici à Montréal, a travaillé, puis il méritait pas de partir, mais en même temps, c'est quand tu essaies de bâtir une formation au niveau de la Ligue nationale, c'est que t'as des joueurs comme lui, ça devient un peu plus remplaçable. Puis je le dis avec tout le respect du monde, parce que Il y a des moments dans ma carrière, moi aussi, vers la fin, j'étais ce genre de joueur-là. Je travaillais tout ça, mais des fois, c'est juste pas dans les cartes. Fait que, des gars comme lui, comme Heinemann, qui des fois, quand notre tête est renvoyé, Heinemann, des fois, son temps de jeu a été rabaissé à 6 minutes, 8 minutes par match. Je ne le méritais pas, mais c'est comme ça. C'est les joueurs qui sont élites, qui ont une identité, qui ont un plafond et un potentiel offensif, qui sont capables d'impacter un match, de vraiment avoir une influence et d'avoir un impact dans un match, qui vont souvent avoir un peu plus de liberté envers les entraîneurs, puis c'est pas le cas des gars comme Code de Toff. Fait que je lui souhaite de retourner à Laval avec une bonne attitude, puis de continuer de produire, puis de se mériter un autre appel, parce que c'est un gars pour qui j'ai... Je veux pas dire j'ai une pitié aujourd'hui, mais tu sais, je fais le mal pour lui, parce que c'est pas lui qui mérite de payer le prix.
La blessure que Kirby Dach a eue, c'est une blessure sérieuse. Moi, je suis prêt à fermer les yeux. Le fait qu'il y a un but en 20 matchs, je suis prêt à fermer les yeux. Le fait qu'il n'est pas un joueur dangereux au moment qu'on se parle. Mais je ne peux pas fermer les yeux à son manque d'effort, de perdre des batailles, de ne pas suivre le jeu, de ne pas vouloir revenir en arrière, de ne pas prendre son homme. Je peux pas accepter ça. Puis je sais que Martin Saint-Louis fait un genre de hard coaching aujourd'hui avec Kirby Dach apparemment sur le quatrième trio, mais moi je te le dis, là, c'est facile pour moi de le dire là, derrière le micro, je suis pas le coach là. Mais moi j'aurais voulu qu'il fait regarder un match de la passerelle puis fait jouer Pezzetta, parce que si tu veux capter son attention là, si tu veux vraiment passer un message là, c'est ça le message que tu passes, parce que comme tu dis, tu peux le mettre sur le quatrième trio, mais là ce soir on peut voir la fin, il y a 15 minutes, est-ce qu'il est vraiment sur le quatrième trio? T'sais?
Non, c'est ça. Puis tu sais, dans le cas de Kirby Dach, tu sais, toutes les tout ce que tu m'énumères là, le manque d'effort, les bagarres perdues, les revirements, ça n'a pas rapport avec son genou, puis ça n'a pas rapport avec sa blessure. Tu sais, c'est un gars qui, de nature, je te dirais, n'a pas l'air le plus fougueux. Puis quand t'as la stature que t'as à 6'3", 6'4", ça paraît encore pire sur une patinoire quand t'as pas de fougue. Fait que tu sais, arrange-toi donc pour play the part, tu sais, range tout pour avoir l'air du gars qui travaille tout ça, puis son manque de production avec le talent qu'il a, tu sais, il y a une partie que je le comprends, parce que bon, la finesse, la dextérité avec le bâton, la rondelle, puis tu sais, la vision, des fois ça prend du temps à venir, tu sais, on a une vingtaine de matchs, on a 20 matchs de jouer cette saison, il y a une partie de ça qui aurait dû être revenu, mais tu sais, quand t'es un gros bonhomme de même, t'es capable de t'as un bon tir, t'es capable de shooter le puck de façon efficace, de trouver des trous. Tu sais, sur l'avantage numérique, là, positionne-toi en avant 5 contre 5, va-t'en en avant du filet, là. Tu sais, moi, j'avais un coach, Paul Baxter, qui disait toujours dans l'Américaine, il dit, tu vas au vent du filet pour la même raison que tu vas à la banque, parce que c'est là qu'il y a l'argent. Mais si tu vas au filet, c'est là que sont les buts. Tu sais, la plupart des buts, là, t'as à peu près 70% des buts dans les 5 qui sont marqués à l'intérieur de 8 ou 10 pieds du filet. Fait que tiens-toi là, à un moment donné, tu vas jouer de chance, tu vas avoir un rebond qui va t'arriver sur la palette, tu vas avoir des opportunités, des deuxièmes chances de marquer après un retour, des choses comme ça, faire dévier des rondelles, mais si tu es à l'extérieur, tu gagnes pas tes bagarres, t'es pas fougueux, puis tu gagnes pas tes courses pour des rondelles libres, tu vas trouver beaucoup, beaucoup de difficultés à générer de l'offensive, du rythme et de la confiance. Donc pour moi, là, rien à la base, tu sais, travaille, gagne les bagarres, t'es supposé gagner, joue vers l'avant, essaie pas de jouer de finesse, puis va-t'en au filet. Il y a souvent des bonnes choses qui vont arriver aux gars qui se tiennent autour du filet. Tandis qu'en Gallagher, il va t'en parler.
Alex Newhook sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Qu'est-ce que t'as vu de Newhook à date, puis pourquoi penses-tu que c'est difficile pour lui, c'est un manque de constance. Moi, écoute, à date, qu'est-ce qu'il m'a montré? C'est un joueur avec des flashs.
Ouais, mais c'est un gars qui est très rapide, il est très dynamique. Fait que, il ressort, il perce l'écran des fois avec sa vitesse. Il va aller chercher des rondelles libres, tout ça, mais c'est un gars, tu sais, cette saison, tu sais, un peu comme Slav et Dark, qui se trouve sur un quatrième trio. Je me demande pourquoi lui se retrouve sur un premier trio. Avec ces gars-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être là? Bon, OK, peut-être que c'est sa vitesse, c'est son achat. Tu as moins l'impression que lui travaille moins que Dach, par exemple, parce que quand, c'est un gars qui patine, c'est dans son danser et c'est naturel pour lui. Puis l'éthique de travail, je te dirais, de façon générale, est quand même satisfaisante cette année. Tu sais, je sais pas si c'est à son maximum, mais satisfaisant. Mais malheureusement pour lui, il n'y a rien qui se passe avec la rondelle cette année. Il génère très peu d'offensives, génèrent très peu de grandes chances de marquer, de qualité. Mais tu sais, dans le cas de créer du chaos sur l'échec avant, de créer de forcer des revirements, ça, de façon générale, il le fait, mais tu sais, c'est peut-être ça l'identité qu'on cherche pour donner une chance à Caulfield et Suzuki, peut-être d'avoir la rondelle un peu plus souvent et un peu plus rapidement. C'est lui, c'est le gars sur l'échec avant qui est peut-être un des plus insistants. C'est le Canadien, mais tu sais, la vérité, c'est que je pense pas que c'est véritablement un top 6. T'sais, on l'a vu souvent, on l'a vu longtemps depuis deux ans, ben, depuis la saison dernière. Puis, on en vient à la réalisation que c'est probablement un gars de troisième ligne. Il est probablement un très bon gars de troisième ligne dans ce rôle-là. Mais c'est une chaise qui est pas peut-être pas confortable, qui est pas apte pour lui, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Fait que regarde, donnons-lui la chance aujourd'hui de voir l'opportunité qu'il a de jouer avec deux joueurs offensifs, puis créer du chaos un peu, puis peut-être que les choses vont débouler pour lui à court terme, puis ça pourrait marcher.
Floutier, dans notre segment Abs à Radio. Denis, des bonnes nouvelles pour Mike Matheson de retour au jeu, à la droite de Lane Hutson. On va parler de Matheson, puis aussi, j'aimerais que tu me parles de Hutson, lui, qui a connu une soirée difficile, avec un -3, mais un -3 samedi soir contre une équipe costaud, hein.
Oui, puis c'est une des équipes probablement qui va donner un peu plus de fil à retordre d'un gars comme Lane Hutson, parce que c'est une équipe très très lourde qui joue dans les coins de patinoire de façon très pesante, qui vont s'appuyer sur toi, vont faire dépenser beaucoup d'énergie. Donc, puis qui aime être en possession de rondelles. Fait que tu sais, quand tu te retrouves dans des positions comme Lane Hutson, que tu dois poursuivre la rondelle, de retrouver dans des bagarres un contre ces gars-là, ça devient un peu plus difficile, on en convient. Mais tu sais, cela dit, c'est peut-être qu'il devient un peu plus vulnérable parce que le groupe en général était plutôt flat, je vais le dire de même, surtout en deuxième période, évidemment, on en a discuté longuement dans les deux dernières journées, mais tu sais, c'est un gars qui, quand la vitesse vient à lui, puis qu'il n'y a personne qui ralentit en zone neutre parce que l'échec avant n'a pas été fait comme il faut, parce que le jeu défensif n'a pas été exécuté, on vient peut-être l'exposer par moment. Fait que regarde, lui, c'est explicable, c'est normal, c'est pas désastreux, puis je suis pas inquiet qu'il va savoir rebondir aujourd'hui. Puis je m'attends à ce que le reste du groupe réponde aussi de façon avec plus d'enthousiasme et plus d'engagement ce soir, parce qu'on sait qu'on a eu une contre-performance. Et l'humiliation à domicile, se faire huer à domicile, c'est jamais vraiment plaisant. Fait que je m'attends à ce qu'Hutson et le reste du groupe répondent aujourd'hui.
Tu sais, le Canadien, sur leur site web, ils ont les trios pour le match de ce soir, puis sur leur site web, c'est le trio de Dvorak qui est le deuxième trio ce soir. Donc, premier trio, Suzuki, puis Newhook à droite, Caulfield à gauche. Dvorak sur le deuxième trio avec Gallagher à droite, puis Anderson à gauche, puis Evans avec Roy à droite, Heinemann à gauche, puis Doc avec Armia à droite, puis Slavkovski à gauche. Si Martin Saint-Louis met Kirby Doc sur le quatrième trio, lui qui est habitué de jouer dans les premières deux trios et sur la première vague de l'avantage numérique, est-ce qu'il va être sur l'avantage numérique?
Bonne question. Probable. Je te dirais que ce genre de scénario-là, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. C'est comme une pénalité 5 contre 5, mais on va te donner une opportunité de répondre, de te prouver, de montrer ton caractère sur l'avantage numérique. Fait que tu sais, c'est de façon presque graduelle. C'est un premier petit tape ses doigts un peu plus légère, mais j'espère, tu sais, si on décide d'y aller de cette formule-là, puis lui laisser l'avantage numérique, j'espère qu'on aura la mèche un peu plus courte aussi. Tu sais, faut être conséquent. À un moment donné, là, les joueurs vont lire quand l'entraîneur est pas sincère, quand il est pas. Il est pas méchant, tu sais, je veux juste te passer un message, mais je suis pas vraiment fâché. Tu sais, à un moment donné, les joueurs, à un moment donné, ils viennent qu'à moins avoir peur de l'autorité, disons-le comme ça. Fait que, tu sais, la tape ses doigts 5 contre 5, c'est une bonne tape, je dirais, pour un gars comme Doc, pour un gars comme Slav, c'est pas leur place qui devrait jouer, qui pense qu'ils mériteraient d'être là. Puis c'est un peu insultant. Puis c'est correct, ça fait partie de coacher, puis ça fait partie de rendre tes gars inquiétants, puis de responsabiliser, tu sais, versus l'effort puis l'engagement que tu y mets au quotidien. Fait garde, ça, c'est ta pénalité. Fait que j'espère que t'es insulté, que t'es un peu humilié dans cette façon-là, mais de la bonne façon. Maintenant, comment est-ce que je réponds? Si j'ai une opportunité d'aller sur l'avantage numérique, dans les deux cas, dans le cas de Doc et Slav, T'sais, j'espère que là, je vais avoir le couteau entre les dents, puis moi, t'as le prouvé que t'as fait une erreur de me mettre sur le quatrième trio, puis on va faire tout à mon possible pour gagner tout en glace. Peut-être que ce trio-là va rester intact au fil du match, mais on va juste avoir plus de minutes parce qu'on va être plus efficace, parce que justement, l'humiliation nous a fait en sorte que, tu sais, mise en échec, là, quand je patine 200 pieds pour aller en échec avant, au lieu de tourner devant le joueur, je vais peut-être la terminer, ma mise en échec. T'sais, peut-être ouais. Une rondelle libre que j'ai échappée, au lieu de faire un rond puis revenir tranquillement, je vais peut-être mettre les freins puis revenir rapidement puis m'engager rapidement une deuxième fois dans la même bagarre pour essayer de gagner la rondelle. Des choses comme ça vont être des signes pour voir, pour moi, c'est ce que je vais regarder, ça va être des signes pour voir si les gars acceptent le message et acceptent la démotion qu'il a sur le quatrième trio. Puis si on a l'avantage numérique, mais tant mieux, mais échappe pas cette opportunité-là parce que le reste va suivre, je pense.
Denis, l'an passé, quand cette équipe-là perdait des matchs, perdait beaucoup de matchs par un but. Me semble les matchs qu'ils ont perdus dans un but, c'était dans les vingtaines, vingt quelque chose, OK?
Ouais.
Cette année, il y a plusieurs matchs qui perdent par plus d'un but et il y a plusieurs matchs qui accordent beaucoup de buts. À date, là, le Canadien ont joué 20 matchs, Denis. 20. Ils ont donné 6 buts à Boston. Ils ont donné 6 buts à Washington. Ils ont donné 6 buts à la maison contre Pittsburgh. Ils ont donné 6 buts à la maison contre Vegas. Ils ont donné 7 buts à la maison contre les Rangers. Et ils ont donné 8 buts à la maison contre Seattle. 20 matchs de jouer. Il y a 6 matchs qui ont donné 8 buts une fois, 7 buts une fois, puis me semble 6 buts 4 fois. Est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce que tu vois quelque chose qui explique que quand ils donnent des buts, ils en donnent beaucoup? C'est-tu l'abandon? C'est quoi?
C'est vraiment difficile d'expliquer, Tony. Quand c'est 30% de ta saison à date, 30% des résultats, t'as accordé 6 buts ou plus. Là. C'est énorme. T'es des choses que je vois cette année que je voyais pas, c'est la gravité des revirements, puis des fois que tu te battes un contre un cette année, elle est énorme. T'sais, en fait, là, la bonne vieille expression, tu payes cash là, pour tes erreurs cette année, là, on l'a subi, on l'a les dents solides. Les revirements qu'on fait, les pertes de possession, hein, les prises de possession aux joueurs dans le territoire défensif et lorsqu'on se bat un contre un dans les bagarres, j'ai l'impression que cette année, c'est tellement exponentiel au niveau de comment on se fait battre. T'sais, c'est pas juste on se fait battre un petit peu, on se fait battre de façon gênante, là, souvent. Pourtant, c'est le même système que l'année passée. Fait que, tu sais, le système en deuxième moitié de saison l'année passée, le Canadien était dans les matchs, puis tu sais, on dit que c'est la jeunesse, mais on voyait des choses positives, puis la tendance était à la hausse. On se disait, bon, OK, la reconstruction, elle commence à faire son effet, ça commence à prendre, puis on s'en va en pente montante, puis on est revenu vraiment à la base cette année. Puis l'autre chose, début de saison, tu sais, si c'était pas de Motombo en novembre, les gardiens de but n'ont pas été très, très bons au mois d'octobre, en début de saison. Tu sais, il y a une partie de ça, c'est que les erreurs t'es jamais réparées. Fait que les joueurs jouaient beaucoup, beaucoup plus nerveusement. Fait qu'on n'a jamais pris confiance là-dedans. J'ai jamais pris notre air d'aller. Fait que, tu sais, puis l'autre, tu sais, oui, la jeunesse, oui, l'inexpérience. Mais il y en a beaucoup dans ce groupe-là qui ont un an d'expérience dans la ligue. T'es pas supposé être pire cette année. Tu sais, t'es supposé d'avancer. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on voit un scénario où là, on a la pression de vouloir être dans le mix. Puis, cette pression, elle avait été imposé à l'interne par notre VP de Jeff Gorton qui a parlé du mix au camp d'entraînement. Tu sais, c'est une nouvelle pression. J'ai l'impression que ça l'étouffe, puis que là, à McConsolini des séries, on va repartir comme l'année passée. Mais ça, c'est inquiétant pour moi aussi. Tu sais, on devient bon quand on n'aura plus de pression. Ça a été le cas l'année passée. Est-ce que ça sera le cas? Tu sais, à un moment donné, il va falloir être bon quand ça compte, puis quand il y a une certaine pression de performer, puis de gagner des points, puis que gagner des points, te mettre dans une course, te mettre dans une position où tu vois des matchs importants, et là, présentement, on perd des points de façon horrible, fait que c'est difficile de gagner une confiance, de trouver du rythme. Cela dit, dans un scénario où c'est très tu sais, je te dirais qu'on est assez négatif là, cette année parce qu'on avait des attentes plus élevées que ça. On a, tu fais le décompte, on a gagné, quand même gagné 3 des 5 derniers matchs. Parce qu'avant la dernière dégelée contre Vegas, on était 3-4, puis on disait OK, ça repart, on est positif, puis une seule défaite. Bon, une dégelée, tu vas me dire, t'as raison. Mais pas tout est noir présentement. Tu sais, t'en gagnes une aujourd'hui, bon, mais finalement, t'en gagnes 4 sur 6, c'est positif. Fait que c'est important à un moment donné de juste rester, de ne pas être trop bas quand c'est bas, puis on a le droit d'être frustré, on a le droit d'être fâché. Puis des fois, on a le droit de pas comprendre pourquoi, parce que des fois, il n'y a juste pas d'explication. Puis des fois, la résolution ou la solution, elle est tellement simple ou plus simple qu'on pense. Il faut juste rester dans le milieu, mais j'aime pas voir ces dégelés-là du tout. Ça m'inquiète beaucoup.
Il y a une autre chose reculant, c'est que le Canadien, quand il donne des buts, ça, on a l'impression qu'il donne, pas l'impression, c'est un fait, là, il donne beaucoup de buts dans peu de minutes. Là, 3 buts, ils ont accordé dans l'espace de 2 minutes 17 face à Vegas. Même pour Caulfield, on lui a posé cette question-là hier pour en parler. Évidemment, quelque chose qui arrive assez souvent avec le Canadien, que dans un court laps de temps, le Canadien donne beaucoup de buts. Et pour ça, Denis, pour ça, moi, je veux dire quelque chose. Là. Je te dis pas que le Canadien vont gagner des matchs quand ils vont appeler des temps d'arrêt, mais que le Canadien donne beaucoup de buts dans un court laps de temps, je mets la responsabilité sur Martin Saint-Louis sur ça. Parce que un temps d'arrêt, ça met un arrêt au momentum de l'autre équipe. C'est ça que ça fait. C'est une des choses que ça peut faire aussi. On appelle des temps d'arrêt pour une stratégie. À la fin, si jamais on enlève notre gardien de but, on va sortir, on va décortiquer un plan. Mais tu peux utiliser le temps d'arrêt pour arrêter le momentum d'un club.
Ouais.
Puis à chaque fois que l'autre équipe marque des buts, même Luigi nous a appelé hier. Là. Luigi nous a appelé hier. Il dit il était au match samedi. Puis il dit après le 3e but de Vegas, les joueurs des Canadiens se sont dirigés vers le banc. Ils avaient l'impression, selon lui, de où est-ce qu'il était assis, ils avaient l'impression que les joueurs du Canadien étaient convaincus que Martin Saint-Louis allait appeler un temps d'arrêt, puis il l'a pas fait. Mm-hmm. Puis on nous a déjà dit dans le passé qu'il les appelait pas parce qu'il y avait un temps d'arrêt de télévision qui s'en venait 1 minute ou 2 minutes plus tard. Mais, tu sais, je mets la responsabilité sur Martin Saint-Louis pour ça.
Dans ce cas-là, tu as sûrement raison. Ça bloque le momentum, puis des fois de juste vouloir garder ton temps d'arrêt pour la dernière minute de jeu parce que tu sais de l'arrêt par un but, tu veux établir un jeu planifié, peu importe, là, tu dis ah, je l'aurai pas à ce moment-là, mais si tu l'utilises pas là, tu n'auras pas besoin en fin de match de toute façon. T'sais, moi j'ai joué pour des entraîneurs régulièrement qui prenaient des temps d'arrêt sans même se faire marquer des buts. T'sais, quand tu perds le momentum pendant 6, 8, 10 minutes, puis tu sens sur le chaud, puis t'es pas dans le match, puis ton gardien te garde dans partie en faisant des arrêts par-dessus arrêts, puis il a le droit de prendre un temps d'arrêt aussi, puis c'est arrivé souvent, même avant de se faire marquer. Donc, si c'est bon sans se faire marquer des buts, t'es tout souvent de le prendre quand tu t'en fais marquer aussi. Puis ça, c'est peut-être une des... Il y a probablement sa façon de penser, il y a ses croyances, puis peut-être qu'il croit pas en ça, mais à un moment donné, tu peux pas jamais le faire. Toujours avoir les gens qui critiquent ou l'impression que l'entraîneur n'a pas pris l'opportunité de faire quelque chose pour stopper l'hémorragie. Tu sais, là, c'est comme t'as l'impression qu'il est 2 mains dans les poches puis qu'il attend quelque chose que les gars règlent ça tout seul. Oui, il y a une partie que tu veux que les gars soient capables de gérer le match puis de sortir du trou puis de se responsabiliser. Mais des fois, ils ont juste besoin d'un peu d'aide puis un peu de temps pour respirer. Quand ça déborde, c'est un peu trop puis ça vient de toutes les directions, puis t'as pas de solution présentement. Là. Des fois, c'est X et O, des fois, c'est ton plan de match, mais des fois, c'est juste ton focus, ton éthique de travail, ton attention, ton engagement, des choses comme ça. Puis ça, juste de ressaisir le moment puis de le faire, au moins t'as fait de quoi. Ça peut-être que ça marchera pas, peut-être que tu vas t'en faire se marquer 2 tout de suite après, mais ça se peut qu'on se ressaisisse, puis qu'on reprenne du momentum, puis qu'on marque le prochain but, puis oh, on a un nouveau match. Fait que, tu sais, c'est arrivé trop souvent cette année qu'on a donné des buts en séquence, qu'on a perdu du momentum trop longtemps, qu'on n'a pas fait un stop, puis hey, le petit gros, tu sais, on se ressaisit. Fait que j'espère que c'est des leçons apprises. Si les gars apprennent des leçons sur la patinoire, j'espère que c'est des leçons apprises pour les entraîneurs, puis j'assume qu'on en discute, puis que les entraîneurs adjoints se challenge aussi entre eux autres, puis en parle à Martin. Hey, tu sais, prochaine fois, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on arrête? Peut-être qu'eux autres l'ont fait, puis Martin dit non, je veux pas, parce qu'il y a ses raisons, lui. Tu sais, ça serait le fun de les savoir si c'est le cas.
Ouais.
Mais il y a une introspection qui doit être faite au niveau collectif là, chez les entraîneurs, de dire pourquoi on ne les prend pas et à l'avenir, est-ce qu'on doit les prendre et quand on doit les prendre.
Denis, Patrick Laine devrait être de retour au jeu la semaine prochaine, peut-être au plus tôt dimanche. J'imagine que soit Pezzetta ou Raphaël Harvey-Pinard, qui est à Laval en ce moment, à un moment donné, qui va être de retour avec le Canadien, mais j'imagine un des deux va passer au balotage, mais on va en parler jeudi. Mais avant que je vous laisse, je te dis que Montembeault dans les buts ce soir, puis Caden Primo demain soir. Ils ont laissé tomber Montembeault samedi soir, le Canadien. Un match important pour lui avec la Coupe des Quatre Nations, là.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, le peu de confiance qu'on a en Primo présentement, surtout à début de saison 16, sa dernière partie contre Buffalo était désastreuse. J'ai l'impression que le niveau de confiance est bas, fait qu'on donne toutes les opportunités au monde à Montembeault de se ressaisir rapidement, puis de retourner dans le match après une performance difficile du match, de revenir rapidement dans un match pour pas laisser ça traîner trop longtemps. Donc, je lui souhaite le meilleur. Moi, j'ai l'impression que le Canadien va sortir fort ce soir.
Merci, Denis. Le voilà.
Ça fait plaisir.
Denis Gauthier d'RDS va être de retour avec nous. Il est là et tous les mardis et les jeudis dans notre segment Habs Radio.